Bonsoir à tout le monde, bonsoir à toutes et à tous, c'est Idée Noire, donc sur le 102.8 de Radio Canut, l'émission de la coordination des groupes anarchistes. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Émission Idée Noire, toujours pareil, hein, tous les mercredis de 20h à 21h. Et c'est l'émission de la coordination des groupes anarchistes, je l'ai dit juste avant la coupure.
Tout à fait.
Hein, je l'ai dit. Hein.
Ah oui, il me semble.
Et ben voilà, et je le redis, et je le redirai encore tout à l'heure. Et on va passer aux annonces.
Ouais, donc on démarre comme d'hab un petit peu par les annonces. Donc il y a pas mal d'activités là ce mois-ci, parce que vous savez qu'on est au mois de novembre Libertaire 2016. Donc voilà, ce petit festival du coup qui a débuté du coup le 22 octobre, hein, un petit peu avant, mais qui finira le 26 novembre, avec comme slogan en novembre on s'installe partout. Toutes les activités donc sont, on peut les trouver soit sur Rebellion, soit directement sur le site du mois de novembre libertaire, qui est lyonlibreweb.org/novembre-libertaire. Nous on a fait focus sur quelques du coup activités qui auront lieu entre aujourd'hui et l'émission de la semaine prochaine. Notamment demain, il y a du théâtre qui s'appelle Le Dehors de toute chose, de et par Benjamin Maillet, écrit à partir du texte d'Alain Damasio, La zone du dehors. Donc voilà, il y aura une discussion après la représentation avec l'éditeur et Alain Damasio. Donc ça se passe au bar Les Clameurs à 20h. La participation est au chapeau, donc prix libre. Du coup, je vais un peu le dérouler, puis après on se partagera les annonces. Hein, mais du coup, il y en avait une deuxième mois d'annonce que j'avais vue. Ça se passera du coup mercredi prochain. Alors c'est un petit peu pendant l'émission de radio, mais c'est pas grave. Du coup, quand même, on va encore faire un peu la pub. Donc c'est Alternative Libertaire Lyon qui organise ça du coup dans les locaux de la CNT. Projection débat, donc ça se passera donc du coup mercredi prochain à 19h30. 4 petits films contre le grand capital. Donc voilà, donc avec la diffusion de professions domestiques, avec un petit descriptif. Chaque année, plus de 150 000 domestiques philippines quittent leur pays pour aller travailler à l'étranger. Le phénomène s'est peu à peu, entre guillemets, professionnalisé, au point que de véritables écoles forment à leur future exploitation. Un deuxième documentaire, Glasgow contre Glasgow. 2008, l'OMS publie une enquête révélant la différence d'espérance de vie entre un enfant né dans un quartier riche de Glasgow et un autre mis au monde dans un quartier pauvre de la même ville. 28 ans d'écart quand même. Un troisième documentaire, Rien à foutre. Petite proposition de réaction face à un contrat précaire, une chef insupportable et une mission abusive payée au SMIC. Et enfin, dans la boîte, une plongée dans l'univers impitoyable de la distribution de prospectus publicitaires où la performance est exigée, y compris des octogénaires. Donc ça, c'est pour les activités du mois libertaire. Je fais la nôtre, puis après, on fera celle un peu extérieure au mois.
Mm-hmm.
Donc du coup, de notre côté, après l'activité qui a lieu du coup la samedi sur les publicités sexistes, du coup qui s'est plutôt bien passé, donc on vous remercie, il y avait du monde à la plume, donc ça faisait plaisir, et du coup c'était surtout très intéressant. On espère pouvoir le mutualiser puis le diffuser un peu plus tard, toute cette présentation-là. Et donc notre deuxième activité du mois libertaire, donc ça se passe ce vendredi le 11 novembre, avec une projection antimilitariste suivie d'une discussion sur les différents projets des politiciens sur le service militaire. Alors on ouvrira la librairie à 19h30, on commencera l'approche sûrement à 20h, le prix est libre comme d'habitude. Le documentaire projeté sera à 14h18, Le bruit de la fureur. réalisé par Jean-François Delassus, voilà, avec un petit pitch du coup sur la soirée. Alors que le 11 novembre et toutes les dates de commémoration ne servent qu'à célébrer les guerres passées et à préparer les futures, cette projection permettra de faire un point sur l'inutilité de la guerre qui ne sert l'intérêt que des dominants. Ceux-ci ont toujours abusé les peuples et les considèrent comme de la chair à canon pour le plus grand bénéfice des marchands d'armes et des trusts guerriers. La lutte pour la paix suppose le rejet absolu de l'idéologie militariste, idéologie qui légitime la guerre. La lutte pour la paix suppose la lutte quotidienne contre l'aliénation des individus pour le seul profit des États, des gouvernants et des capitalistes tous complices. Mais du coup, cette projection nous permettra aussi de faire un point sur ce qui se trame du côté des politiciens actuels qui souhaitent presque tous, à l'unanimité, remettre le service militaire en route. Le dernier projet en date des socialistes était de mettre, socialistes entre guillemets, hein, toujours, était de mettre en place un service civique obligatoire en deux phases. Une première phase ayant lieu du 1er juillet au 1er octobre, l'année des 18 ans, qui représenterait 3 mois de bourrage de crâne, hein, afin de découvrir les fondamentaux de la République et les symboles de la nation. Et une deuxième phase avec une période de travail présentée comme une succession de missions d'intérêt national, indemnisées toujours entre guillemets, hein, 470 € par mois, et non régies par le Code du travail, donc sans aucune protection salariale. La durée de travail d'au moins 24 heures pour aller jusqu'à 48 heures par semaine, ce qui revient à une rémunération indigne et dégradante de 2,44 € de l'heure quand même, hein. Donc voilà, donc on parlera un peu de ce projet-là qui pour l'instant a été retoqué par le Sénat, mais du coup qui risque de revenir au goût du jour, puis dans la bouche, hein, près de ceux et celles qui vont se présenter à l'élection présidentielle. Ils vont forcément mettre ça sur le tapis à un moment donné pour redresser la nation, comme ils disent. Donc voilà, donc ça se passe ce vendredi à la Plume Noire, à partir de 19h30, donc l'ouverture du local. Et donc du coup, il y a une autre activité, donc, parce qu'il n'y a pas que le mois libertaire dans la vie non plus, ça se passe samedi.
Oui, c'est le lendemain de ce vendredi, donc le samedi 12 novembre. C'est une journée carrément de commémoration de la résistance au franquisme de 1936, avec, j'ai le petit fly, enfin, c'est même pas un fly, c'est... de Durruti, hein, Bueno Aventura Durruti, voilà, je ne l'ai pas trop mal prononcé, c'est ce samedi 12 novembre, c'est de 10h à minuit, et le lieu, ben, c'est la salle des fêtes Les Ovalistes, 6 Impasse Flessel, à Lyon, dans le premier arrondissement, hein, sur cette mi-pente. On peut y accéder avec le bus 13, le 18 ou le 6, à l'arrêt Rouville. Voilà, pour s'y rendre, il faudra remonter un petit peu les marches, mais enfin bon, bref, c'est pas bien grave. C'est un programme, quand même, on peut dire, alléchant, parce qu'il démarrera donc à 10h avec une exposition d'affiches de la CNTFI de 1936. Exposition qui est organisée par la librairie Barrio de Barcelone, en Catalogne. À 15h, il y a un débat autour du film Ortiz, un général sans dieu, sans maître. C'est organisé cela par la librairie Les Chats Noirs de Cuiserie dans le 71. À 16h, il y a de la sérigraphie sur t-shirt avec l'atelier Chalopin Papiart. À 19h, bah, ça sera un buffet, parce qu'il faut penser aussi à se restaurer un petit peu. Buffet qui est organisé par la coopérative, par une coopérative locale. Et à 21h, bah, une intervention musicale, évidemment, comme il se doit, avec une chorale et un DJ. Alors, ce qu'on appelle un PAF.
C'est ça, un PAF.
Donc ça sera 1,80 €, c'est l'équivalence d'un ticket de TCL. Et il y a une réservation obligatoire aussi, apparemment, c'est signalé donc sur le fly que j'ai en main. On peut joindre donc pour cette réservation papyart, papyart, yahoo.fr. Donc voilà, pour réserver, c'est ce qu'ils proposent, hein, ouais, les organisateurs et les organisatrices de cette journée.
Je ne connais pas la capacité de la salle,
mais c'est voilà, pour ça aussi. Voilà, c'est ça. Donc je rappelle, hein, c'est pour une journée de commémoration de la résistance au franquisme de 1936 à 1939, une grande époque qui sera révélée, rappelée du moins. À cette occasion.
Là, on a cité que quelques activités. Il y en a d'autres encore que vous pouvez retrouver forcément sur l'agenda de Rebellion, voilà, pour que vous soyez au courant de tout. On va partir du coup sur une première page qu'on comprendra peut-être en deux si c'est un peu long, mais on verra ça. Du coup, on ne va pas vous parler, hein, d'élection américaine, parce que je pense que tous les médias en parlent. Vous avez eu à peine la radio, vous en avez plein les dents. Par contre, on vous préparera sûrement quelque chose sûrement avant la fin de l'année ou en début d'année prochaine. On fera peut-être une émission spéciale du coup sur l'anti-électoralisme, hein, voilà, pour un peu voilà, justifier notre choix en tant qu'anarchiste de ne pas participer aux élections, en tout cas de ne pas participer dans, en tant que personne, hein, de ne pas voter. Donc on fera sûrement toute une émission spéciale là-dessus, parce que ça peut être assez intéressant de le faire, hein, vu qu'on va être en pleine période, nous aussi, présidentielle. Pour l'instant, c'est les primaires de chaque côté, mais bientôt, il va y avoir les grands combats qui vont amener, avec surtout la surenchère politique. Et de la surenchère politique qu'il va y en avoir, notamment autour des migrants et des migrantes, malheureusement. Ils ne l'ont pas choisi, mais ça va être un peu, malheureusement, un thème de campagne. Hein. Et du coup, je voulais revenir vite fait sur... sur une campagne de pub qui pue du Front National, voilà. Ils diffusent une série de tracts en ce moment qui opposent du coup forcément la situation des migrants, à qui on accorde tout a priori, hein. Oui. Et ben ils l'opposent du coup aux étudiants, aux agriculteurs et aux mal logés français, bien évidemment, parce que du coup c'est un peu leur fond de commerce, voilà, avec des arguments qui sont complètement faux. Et ils font circuler ça, évidemment, beaucoup sur le net aussi. Donc on va essayer de revenir un peu dessus. On l'avait déjà fait de nombreuses fois, hein, sur un petit peu... revenir un peu sur les préjugés qu'il y avait sur les migrants et les migrantes. Du coup, là, c'est un peu ciblé sur leur campagne, mais ça permettra un peu de remettre les choses aussi à leur place. Du coup, ils font une première. Donc, ça va être une espèce d'agriculteur qui tourne le dos, et qui est barré d'une croix, il me semble. Voilà, qui ont dit on accepte tout aux migrants, mais pas à lui. Voilà, en disant qu'il vit, cet agriculteur, avec 280 euros par mois. Ce qui est assez bizarre, puisque du coup, apparemment, il est en retraite. Il est quand même bon de rappeler que toute personne, on est rien que ça, tout le monde, mais au moins de nationalité française, de plus de 65 ans, qui réside dans le pays, peut bénéficier au minimum de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, hein, qui vient pas du coup de 284 euros, mais bien de 801 euros par mois. On sait que c'est très peu, mais voilà, du coup, le truc est déjà très mensonger par rapport à ce qu'ils disent. Et voilà, puis on rappelle quand même du côté des demandeurs d'asile. Alors, c'est des demandeurs d'asile, hein. Alors, ça veut dire que ça ne concerne que ceux qui font une demande d'asile. Il y a énormément de migrants et de migrantes qui ne le font pas parce qu'ils savent que ce sera refusé et qui, du coup, qui ne disposent d'aucune aide. Mais pour ceux qui ont fait la demande d'asile, ils ont effectivement 330 euros mensuels, ce qui est nada, hein, correspondant du coup à l'allocation pour demandeur d'asile versée à une personne seule sans place d'hébergement. Donc voilà, donc il faut se démerder pour le reste, donc avec 330 euros. Et le montant, il descend encore à 204 euros s'il y a un hébergement. Donc voilà, donc pour un peu aller du coup complètement... ils font de la merde comme d'habitude, mais le problème c'est que ça marche, donc il faut à chaque fois justifier le fait que du coup ce qu'ils balancent c'est complètement faux. Un deuxième argument qui donnait, donc pareil qu'avec un jeune ou une jeune étudiante, du coup, voilà, qui est barré aussi, avec les migrants logés au détriment des étudiants. Donc ça nous fait bien rire aussi. Voilà, il faut rappeler qu'un étudiant, enfant unique, hein, dans la famille, gagne 25 000 euros annuels et boursiers. Donc voilà, c'est également le cas pour un foyer avec trois étudiants dans l'enseignement supérieur qui déclare 60 000. Donc du coup, après, on peut, en tant que boursier, avoir accès à des choses. Mais pour les étudiants boursiers, par exemple, ça va éventuellement pour trouver un logement étudiant. Là, il prenait l'exemple de Lille, hein, dans l'article que j'ai trouvé, avec 160 000 étudiants chaque année, mais 10 000 seulement en place de logement au Crous de Lille. Donc ça veut dire qu'il y a de la sélection qui est faite aussi là-dessus. Donc pour les étudiants boursiers, ça va à peu près, mais c'est très compliqué d'avoir accès au logement pour les étudiants. Au logement étudiant pour les autres et surtout du coup pour les étudiants étrangers. Ils faisaient un focus sur Lille, là, les fachos, parce que du coup, il y en a qui ont été accueillis suite au démantèlement de Calais, des bidonvilles, et du coup, une 80 qui sont d'ailleurs inscrits à l'université Lille 3. Et du coup, ils sont logés dans une résidence, mais du coup, qui est vouée du coup à la destruction, donc qui n'a rien à voir du coup avec le logement étudiant actuel, en fait. Donc c'est un bâtiment vide qui a été occupé, voilà, pour eux. Voilà, on aimerait aussi rappeler, on l'a fait déjà la semaine dernière, hein, mais que eux, c'est leur fond de commerce, hein, de diviser pour mieux régner. Hein, ça veut dire entre exploiter, on va essayer de diviser, trouver toujours le petit truc qui fait que. On rappelle qu'il y aurait de la place pour tout le monde, hein, pour les SDF, pour les mal logés, pour les migrants et les migrantes, si le logement vide était réquisitionné. Donc voilà, mais ce qui n'est pas le cas. On l'avait rappelé la semaine dernière, hein, 2,6 millions de logements vides en France. Le troisième petit autocollant des fachos, c'est sur les logements sociaux, donc qui seraient saturés par l'immigration. Donc voilà, c'est aussi hallucinant de balancer de quel truc. Il faut bien rappeler bien sûr qu'il y a du mal logement, hein, 3,8 millions de Français qui sont mal logés, dont 140 000 sans domicile et 85 000 dans des habitations de fortune. Mais du coup, voilà, c'est vraiment aller trop loin de dire que du coup, il n'y a pas d'aide pour les personnes qui sont en difficulté, il y en a. Et puis surtout pour rappeler aussi que les migrants et les migrantes, ils n'ont pas tous comme ça, par magie, accès au logement social. Il y a quelques chiffres qui disait, pardon, excusez-moi, voilà, quant au nous, voilà, surtout aux nouveaux arrivants en France en situation régulière, du coup en situation régulière, parce que du coup tous ceux qui sont en situation irrégulière, ils n'ont pas le droit forcément. Voilà, ils étaient 26% à occuper un logement social en 2010. Voilà, il faut aussi rappeler qu'un peu plus d'une personne sans domicile, une personne sur deux sans domicile fixe, soit à 53%, est de nationalité étrangère en France, alors que les étrangers représentent 6,4% de la population. Donc voilà, pour c'est un petit peu, voilà, contrecarrer un peu cette argumentation comme d'habitude. Il y avait des petits argumentaires qui avaient été faits par une asso, je ne me rappelle plus, on vous le remettra peut-être sur le site de la radio, là, sur le blog de l'émission, pour que vous puissiez retrouver, avec 6 fascicules qui avaient été faits sur les préjugés, du coup, sur les migrantes et les migrantes. Et puis on va donc, pour parler toujours un peu sur ces personnes, enfin en tout cas d'immigration, voilà, des choses pas très gaies, mais bon, là, on va quand même le faire. Du coup, avec un témoignage qu'on a trouvé aussi sur le net d'une personne qui était volontaire, du coup en service civique, je crois, dans une association qui s'appelle les Enfants du Canal. Et donc, il a participé à un programme qui s'appelle Rome Civique, qui vient en aide du coup aux habitants des bidonvilles. Et du coup, elle fait tout un descriptif de ce qu'elle fait du coup dans cette association là. Du coup, donc, elle accompagne les enfants en Rome dans leur scolarité, inscription à l'école, vaccination et devoirs. Il nous arrive de faire des ateliers de cirque, de danse, d'acrobatie, etc. Et puis il y a des sorties aussi qui sont organisées pour les faire un peu sortir un petit peu, voilà, de ce qu'ils connaissent tous les jours, pour égayer un petit peu leur quotidien. Et donc du coup, décider d'aller à la piscine, voilà, pour emmener tout ce bon monde à la piscine. La plupart n'y étaient jamais allés. Leurs profs et leurs camarades de classe en avaient parlé, donc ils nous demandaient sans arrêt d'y aller. Voilà, comme ils ont difficilement l'accès à l'eau potable dans les bidonvilles où ils vivent, le lien qu'ils ont avec l'eau est assez particulier. Dès qu'ils voient une source, ils peuvent y rester des heures à boire et à jouer avec. Du coup, elle a cherché cette volontaire, du coup, des financements auprès d'autres associations. Elle a prévu tout, hein, les maillots de bain, les goûters, réuni des accompagnateurs. Les volontaires de Rome Europe étaient ravis aussi d'accompagner. Voilà, elle a appelé la piscine pour connaître les démarches à suivre afin d'accompagner une vingtaine d'enfants. Une jeune femme a transféré l'appel à son responsable qui m'a assuré qu'il n'y avait pas de problème car nous étions dans une période creuse de fréquentation. Donc le jour J est arrivé, un mercredi, un jour où il n'y a pas d'école. 45 minutes entre le bidonville situé à Montreuil et la piscine. Pendant le trajet, les enfants, bah, très impatients et très excités de découvrir tout ça. Et en arrivant, bah, tous se sont collés naturellement devant la vitre de la piscine avec des étoiles plein les yeux. Et ben là, manque de peau, le racisme ordinaire redébarque. Les personnes de la sécurité se sont alors brutalement mises face à nous, bras croisés, avec un regard accusateur qui semblait dire « Mais vous êtes qui? Vous n'attendez pas de groupe aujourd'hui ?» Donc la personne a vécu très durement cette prise d'autorité. Elle a beau expliquer qu'elle avait prévenu, que la visite était prévue, ils n'ont jamais cessé de nier en bloc, avec un petit sourire. On pouvait sentir de loin la haine qui émanait d'eux. Tous les accompagnateurs ont tenté de les raisonner, mais même la responsable, qui est l'habitude pourtant de ce genre de situation, n'a pas réussi. Au bout de 20 minutes, tout le monde est parti. Voilà, avant de quitter la piscine, un collègue Rome, du coup, de l'association Rome Europe, a fait une faute de français, un entendu, rigolé derrière lui. Donc voilà, un petit peu de racisme ordinaire, hein, dans les dents. Et puis on va revenir du coup maintenant sur Lyon. Il y a au moins deux occupations dans des écoles ou dans des collèges en ce moment. Alors c'est très récurrent, hein, tous les ans c'est le cas, avec un collectif, une asso qui fait du super boulot, qui s'appelle Jamais Sans Toi, en lien avec d'autres collectifs aussi, que ce soit dans les arrondissements lyonnais ou dans la banlieue lyonnaise. Et donc du coup il y avait eu une occupation, alors qui est finie maintenant, hein, mais c'était lundi soir, de l'école Gilbert Dru. Voilà, il y a eu un appel à soutien parce que la police nationale avait menacé d'évacuer tout le monde. Donc du coup voilà, c'était pour loger des familles, hein, des enfants qui dorment dehors, hein, voilà, concrètement c'est ça, avec leurs familles qui sont du coup scolarisées à l'école mais qui passent leur nuit dehors. Et vous imaginez en ce moment, enfin du coup vivre dehors c'est jamais bon, vous imaginez en ce moment ce que ça peut donner aussi. Donc du coup le premier soir ça a plutôt bien marché, la police municipale était restée, empêchant à un moment donné les soutiens de rentrer dans l'école pour donner la main. Finalement, au bon moment, ça s'est décanté, toutes les personnes ont pu rentrer. Il y avait une bonne entre 80 et 100 personnes dans l'école. Voilà, donc la nuit a été possible de lundi soir à mardi pour les familles. Et puis, du coup, il y avait un nouveau rendez-vous qui était donné, du coup, hier soir devant l'école, devant le gymnase. Voilà, il y avait un cours de taekwondo à 20h, de 20h à 21h. Et c'était, du coup, pour réoccuper le gymnase à 21h pour que les familles puissent dormir au chaud. Manque de peau hier, voilà, avant d'y aller, on reçoit quelques textos. Et puis, on comprend vite que, du coup, la mairie, plutôt que. Enfin, au départ, on pensait que c'était ça, parce que du coup, il y a une solution quand même été trouvée, mais du coup, plutôt que d'assumer pleinement de virer les gens et de les mettre à la rue, du coup, avait changé les serrures du gymnase pendant la journée de cours, hein, pour sans que les profs s'en aperçoivent. Donc c'est très classe, hein, comme on dit. Voilà, tout en sachant que plus tard dans la soirée, on a appris que suite à une réunion avec des élus de la mairie centrale, a priori, bah, du coup, les familles ont pu être logées. Alors on ne sait pas pour combien de temps, je n'ai pas toutes les infos jusqu'à quand et où, si c'est éloigné de l'école, si les enfants peuvent toujours revenir à l'école, etc. Si la journée, les parents sont toujours dehors ou s'ils peuvent être aussi logés pendant la journée, parce que voilà, ça commence à cailler sérieusement. Mais du coup, voilà, on essaie d'avoir plus d'infos. Il y a une page réseau social du coup, qui s'appelle Jamais sans toi. Et même une autre qui s'appelle, je crois, Solidarité Guillotière, que vous pouvez aller voir. Il y a pas mal d'infos dessus, c'est assez intéressant. Et puis, on va parler d'un deuxième, du coup, bâtiment qui est occupé. C'est le collège Barbus, du coup, à Vaux-en-Velin. Donc, on va vous lire, du coup, le petit appel qu'il y avait eu. Puis, on fera un petit point sur ce qui se passe maintenant. Voilà, les premiers migrants en provenance de Calais arrivent à Lyon. Un exil qu'ont connu il y a quelques années, 3 collégiens scolarisés à Vaux-en-Velin. Depuis, ils ne comptent plus les nuits passées dehors. Les personnels du collège Henri Barbus mettent tout en œuvre pour venir en aide à ces familles, quitte à occuper l'établissement illégalement. Et donc, le 5 novembre, donc ce samedi, enfin, samedi dernier, à 9h30 au collège Henri Barbus, en ce jour de week-end, le collège devrait être désert, mais pourtant, des voix et des rires d'enfants résonnent. Dans le gymnase du collège, un local situé à quelques mètres de l'établissement s'organise un compte fortune où une dizaine d'hommes, femmes et enfants tentent de prendre leur marque. Les matelas habituellement utilisés pour pratiquer la gymnastique ou autres activités sportives ont servi de lit ces dernières nuits. Des lits improvisés où s'entassent quelques couvertures. Seule barrière contre le froid, des tables de ping-pong installées en guise de paravent ont pour unique but d'offrir un semblant d'intimité aux 3 familles qui ont investi les lieux. 3 familles qui ont fui leur pays d'origine et qui se trouvent aujourd'hui sans logement. Pour les personnels du collège, cette situation inacceptable ne pouvait plus durer. Avant les vacances de la Toussaint, ils ont alerté la préfecture, le rectorat et la métropole sur les conditions de vie des 3 élèves scolarisés en vain. Et donc du coup, ils ont décidé d'occuper l'établissement afin d'éviter à ces familles de dormir dehors. Donc ce qui est plutôt très très classe sur ce coup-là. C'est pas la première fois non plus qu'à Vaux-en-Velin ça se passe, hein. Ça avait été le cas sur les écoles primaires et il y a du monde même sur ce collège aussi. Donc voilà, donc ça, pour l'instant la solidarité se met en place. Bah après voilà, on avait connu, hein, il y a un an ou deux, enfin tous les ans c'est la même chose, hein, les écoles sont occupées, on peut s'inscrire, on peut aller voir ce qui se passe, on peut aller donner un coup de main, on peut apporter de la bouffe, on peut aider pour faire la bouffe, on peut sûrement des rotations qui sont mises en place pour rester la nuit là-bas, parce que du coup il faut dormir sur place pour une éventuelle expulsion des familles, pouvoir prévenir et défendre les familles. Donc voilà. Et donc aujourd'hui, donc la date de 2 jours, hein, grâce à la mobilisation de personnel de l'établissement Henri Barbus, ils ne sont plus seuls. Voilà. Ces derniers n'ont d'ailleurs pas hésité à se cotiser pour offrir 7 nuits d'hôtel à une des familles dans le besoin il y a quelques semaines. Cette solution n'étant pas durable, ils en appellent aux autorités. Il existe des moyens. Voilà. Il y a des logements de fonction vides dans le collège et dans l'autre établissement situé à proximité. Donc ça, c'est encore, enfin, c'est quand même ouf. Hein, voilà. Il y a des choses qui existent vraiment juste à côté, en plus dans l'établissement. Du coup, j'ai eu un prof là tout à l'heure par téléphone. Donc l'occupation continue. Donc faut pas hésiter du coup à apporter du soutien, que pour l'instant la métropole renvoie la balle sur la ville alors que c'est bien a priori la métropole qui gère ces logements de fonction qui sont vides, qui sont chauffés, enfin voilà, on pourrait loger ces familles-là, et que du coup la question qui était posée de qu'est-ce qui va se passer ce week-end avec le jour férié de vendredi et le pont, et donc du coup le collège sera bien occupé tout le week-end, donc pareil, voilà, n'hésitez pas à passer, n'hésitez pas du coup à contacter, alors je pense qu'il y aura des petits contacts sur les pages, hein, du coup, réseau social que j'ai donné tout à l'heure, avec des liens, peut-être que vous pouvez contacter directement des personnes pour savoir ce qu'il faut amener exactement, nous on le fera également aussi sûrement par rapport au stock qu'on a de vêtements et de couvertures. Je vais peut-être m'arrêter là, peut-être pour faire une petite pause.
Ah bon, c'est comme tu veux.
Ouais, je sais pas trop, parce que du coup, c'était juste pour parler, bah du coup, ça va être un peu plus rapide que prévu, mais... Il y a comme depuis quelques semaines des rassemblements donc, organisés soit par le Front National, soit par des partis républicains ou des partis annexes au Front National contre l'accueil de migrants. Hein. Et du coup, ça a été le cas encore dans 2 villes et un peu comme d'habitude et heureusement, et ça rassure un petit peu sur l'état un peu de tout le monde. Hein. C'est-à-dire que pour l'instant, le FN qui arrive pourtant à engranger pas mal de voix à différentes élections, mais du coup n'est pas un parti de terrain, n'arrive pas à mettre ses militants dehors. Parce qu'à Saint-Martin-d'Hères, et ben du coup, il y avait un rassemblement qui était appelé du coup par le Front National. Et ben du coup, il y a eu un appel à contre-rassemblement, comme ça se fait un peu de partout et c'est plutôt bien. Et ben du coup, le Front National de l'Isère a annulé son rassemblement parce qu'en disant qu'il y avait des risques de troubles là-dedans. Du coup, c'est très bien parce que du coup, il y a eu entre 400 et 500 personnes qui se sont réunies du coup contre ce rassemblement du Front National. Donc voilà, donc ça c'est plutôt sympa. Et du coup la même chose a été fait à Marseille. À Marseille en plus c'était l'élu Front National là, monsieur Ravier qui appelait du coup à une manif contre les migrants. Et ben du coup de l'autre côté il y a plusieurs centaines de manifestants qui se sont mobilisés pacifiquement en amont de ce rassemblement là beaucoup plus massif du coup qui s'est en plus conclu, et ça c'est plutôt beau, en manifestation sauvage dans le centre-ville. Un des slogans, c'était « Vous êtes trois, nous sommes 3000 ». Donc voilà, du côté du FN, ils étaient une petite centaine, service d'ordre compris, avec une banderole, bah, comme dame, un migrant imposé français bâillonné, hein, voilà, super. Donc à l'appel de Stéphane Ravier, tout ça parce qu'il y a la venue de 80 migrants à Marseille quand même, donc qu'il qualifie d'immigration massive organisée par la classe politique. 80 personnes à Marseille, on imagine bien ce que ça peut donner. Du coup, voilà, il a essayé de parler, ce bon vieux Stéphane Ravier, mais du coup, face à lui, les contre-manifestants bah, gueulaient 5 fois plus fort, hein, des fermes ta gueule, des Ravier rentre chez toi. Et du coup, ce rassemblement qui était appelé par l'action Antifa de Marseille, Jeunes très énervés, Marseille debout, soulève-toi, Jeunesse de Marseille et Collectif Soutien Migrant 13, et ben voilà, ils ont manifesté dans le centre-ville, et ça c'était plutôt sympa apparemment, c'était très festif, et voilà, c'est plutôt plaisant d'entendre des bonnes nouvelles comme ça. Et puis je vais m'arrêter là parce que c'est déjà 8h27. Et puis on va faire une première petite pause musicale.
Bah oui, on va faire une pause musicale. Allez, on va écouter un groupe féminin là, qui s'appelle Évasion. Et ils vont nous interpréter Cul et chemise. Voilà, c'est parti.
Puisque nous voici comme cul et chemise, suis-je la chemise, suis-je le cul, si suis le cul, ça m'électrise, oui mais la chemise, c'est ambigu. Supposons d'abord que je sois chemise, je me trouverai donc sur le dessus. Vous pourriez alors par mon entremise passer pour le coup presque inaperçu.
Pour le coup inaperçu.
Si d'être caché vous démoralise, et si d'être cul vous laisse déçu, veuillez s'il vous plaît être la chemise. Vous la ferez bien, j'en suis convaincue. Et puis voyez-vous, ça me tranquillise, car étant un cul rempli de vertu, j'aurai malgré moi comme une hantise qu'en fait de chemise un fussier tutu.
Chemise fussier tutu.
Juste crainte alors que la moindre brise va me dévoiler d'un souffle incongru. Mais quoi, vous vous dites, et je réalise qu'être la chemise ne vous convient plus. Ah, mais il faudrait qu'on vous civilise, ce revirement est inattendu. Hey, soyez le cul, ça vous galvanise, ne vous plaignez pas si c'est exigu. Je ne comprends pas cette convoitise, je serai chemise, vous m'avez vaincu. Ne craignez-vous pas que partout on dise que vous vous cachez d'être trop dodu. Oublions un peu ce qui nous divise, nous nous conduisons en vrai malotru. Vous êtes un cul comme une banquise, moi une chemise bien saugrenue.
Chemise bien saugrenue.
Puisque nous voici comme cul et chemise, soyons la chemise, soyons le cul. Mais en vérité, c'est une surprise que notre amitié y ait survécu.
Notre amitié survécu.
Vous êtes toujours à l'écoute d'Idées Noires, l'émission de la coordination des groupes anarchistes.
Et nous allons... C'était frais, hein,
Tout à fait.
Voilà.
Et nous allons donc continuer avec un premier jet de lutte sociale à 20h30.
Des luttes sociales, on était à Marseille tout à l'heure, bon, on va y rester, avec une grève sur le Vieux-Port. Il n'y a plus moche, hein, quand même, pour faire des grèves. Ben, là, on est sur le Vieux-Port, et c'est les employés d'une société sous-traitante Aqua pour l'entretien des chambres du Radisson Blue Hôtel Chicos Marseillais. C'est le 31 octobre qu'a débuté la grève avec Piquet et la CNTSO en soutien. Il y a de quoi faire rêve, et plus même, puisque ces dames trouchent entre 800 et 900 euros mensuels, selon le bon vouloir de la direction qui érige un planning démesuré, tout en rapport avec le bien-être, évidemment, du Radisson Blue. 13 à 18 chambres à retaper dans la journée de travail. La direction donc de Radisson s'en bat les amygdales des conditions de travail auxquelles sont soumises les travailleuses d'Aqua. Le 31-10, c'était la grève totale. Le but, obliger les directions de négocier sur leurs revendications, dont je vais vous énumérer. Il y en a 8 avec le paiement à l'heure. En 2, une prime panier. En 3, un 13e mois. En 4, une annulation de la clause de mobilité. En 5, matériel pour le travail à effectuer. En 6, un jour de repos fixe le week-end. En 7, le respect du droit syndical. Et en 8, l'annulation des sanctions à leur encontre. Il y a eu rencontre donc un peu plus tard avec la DRH, enfin une DRH et la CNTSO dans ses locaux. C'était le 1er novembre. Aucune réponse d'Aqua pour le moment, enfin du moins à cette date, à part que la direction rencontrera celle de l'hôtel. À cette date, la grève était encore bien, bien ancrée. Et on peut dire bien ancrée puisqu'on est dans le port de Marseille. Ensuite, dans un autre port, c'est à La Rochelle avec un débrayage chez Dufour qui est un constructeur de yachts. Une centaine d'ouvriers sur 400 et 200 intérimaires. Mécontentement, sont les conditions de travail, les salaires, et puis ces négociations annuelles obligatoires qui sont à 1%, ridicule, et pas de quoi se payer une planche, et même pas un radeau, enfin du moins un radeau tout au plus, la direction veut imposer le travail de nuit en contrepartie de ce fameux 1% qu'elle daigne donner à ses ouvriers. Alors on est bien, on est très bien chez Dufour. Les employés doivent pisser que pendant les moments de pause. Les ouvrières donc de cet établissement sont moins payées que les ouvriers. Ça c'est pas une nouvelle. Et des chefs leur proposent de balayer comme emploi technique. Voilà. Nombreux accidents du travail aussi, il faut l'indiquer, notamment chez les intérimaires. Et Dufour, c'est pas de la plaisance, c'est une galère. À Limoges, c'est une colère d'élèves et d'enseignants et d'enseignantes du lycée Saint-Exupéry de la section carrosserie et construction. C'était le 12 octobre avec une manifestation au rectorat pour dénoncer la nouvelle carte scolaire de 2017. La filière carrosserie-construction sera supprimée dans ce lycée public au profit des FCIL. Alors, ce sont les formations complémentaires d'initiatives locales. Donc un truc, je dirais, entre guillemets, tout en que dalle, sauf qu'il permettra de remettre entre les pattes griffues des patrons de jeunes apprentis avec peu de formation. C'est ce qu'au moins déclarent les enseignants et les enseignantes, ce qui n'est pas le cas de Saint-Exupéry pour le moment, puisque ces jeunes sortiront de... Et en plus, les jeunes sortiront du FCIL en question, sans diplôme, et ça coûtera moins cher et ça rapportera gros au patronat du secteur. À Gaillac, c'est dans le Tarn, avec un PSE mortifère et zou, c'est la grève normale, très normale, je dirais même supranormale, comme chez donc Alphacan qui fait dans la menuiserie en PVC. La direction l'a annoncé en octobre que 92 emplois disparaîtront. Alors pas de salisette, sur les 133 salariés, 95 ont suivi la CGT en une grève illimitée et piquet qui empêche la sortie de la production. Pression sur la direction pour lui faire cracher le morceau. La fermeture du site est redoutée. Un CCE était prévu le 31 octobre, dont je n'ai pas les résultats, donc j'irai à suivre. Ajoutez qu'il y a eu une grève aussi en octobre, à la mi-octobre, avec une manif et une mobilisation publique à Gaillac, pour sauver évidemment les emplois dans cette ville. Et puis maintenant sur Guingamp, c'est en Bretagne, dans les Côtes d'Armor, avec 8 salariés en grève, avec piquet de grève également pour ce qui reste à sauver avant la fermeture de la cafétéria Casino. Alors pour en arriver là, il faut qu'il y ait eu du mal de fait. Eh bien la direction est coupable, comme ailleurs, de cacher l'événement, voire de maquiller la réalité, de s'en tirer au meilleur prix finalement, à savoir des indemnités au rabais. Exemple, pour ici, la DRH n'a pas daigné jeter un regard sur les revendications. 2 années de salaire, ce qui était revendiqué par ses salariés grévistes. La DRH a donné comme seule réponse un entretien individuel qui finalement, au bout du compte, décidera. Donc, roulage dans la farine en vue pour ces travailleurs et travailleuses qui ont entre 10 et 20 ans de présence à la CAFET. Voilà pour ce qui est de cette première page.
Ouais, du coup, j'en rajoute une petite. Un article qui a été publié il n'y a pas très longtemps dans la journée, je crois, sur Rebellion, avec un boycott des restaurants Frites Alors. Je vais vous lire un petit peu l'appel de la CNT. Face à la répression que subissent nos camarades canadiens d'IWW, la CNT Interpro Villefranche appelle au boycott des restaurants Frites Alors. En France, les 2 premiers restaurants sont implantés à Lyon, dans le 1er arrondissement, pas très loin d'ici, au 20 rue Termes et dans le quartier de la Guillotière, au 2 rue Chaponnet. Donc voici le communiqué de presse des employés situés au Canada. Les employés du restaurant Frites Alors, situé au 43 rue Rachel Est à Montréal, annoncent la fondation du syndicat des travailleuses et des travailleurs de Frites Alors. En effet, après un été particulièrement éprouvant, ils ou elles ont revendiqué de meilleures conditions de travail et ont décidé de constituer un syndicat. Depuis le printemps 2016, les relations de travail étaient particulièrement tendues. La direction exigeait depuis plusieurs années que les employés payent les repas des clients et clientes ne payant pas leurs factures pour les débalancements de la caisse, du fût et l'inventaire. La rétention de salaire par un employeur est une pratique tout à fait illégale et ne respecte pas les normes de travail. Les travailleurs et travailleuses du restaurant sont alors organisés sur ces bases et leurs actions concertées ont permis de résoudre les problèmes énumérés précédemment. De plus, les chaleurs intenses de la période estivale et le refus patronal d'installer une clim adéquate ont amené les employés à travailler dans des conditions déplorables. Après beaucoup de temps et d'énergie investie, l'employeur a partiellement résolu le problème, mais la climatisation n'est toujours pas efficace. Depuis, l'employeur refuse de dialoguer. Donc le personnel du Frites Alors revendique entre autres une augmentation salariale, des congés maladie, des formations, etc. La création d'un syndicat ainsi permettra de stabiliser le roulement d'employés. Les revendications, plus demandes, du coup le salaire, donc là du coup c'est tout en dollars. Et du coup ils exigent aussi la fin des procédures disciplinaires à l'encontre des salariés syndiqués. Donc c'est à suivre parce que du coup là c'est juste un appel à boycott comme ça en solidarité avec ce qui se passe là-bas au Canada, ce qui sera intéressant après de faire. Et on espère que ce sera le cas, c'est d'aller prendre un petit peu température auprès des salariés, du coup des 2 magasins Frites Alors qui se trouvent à Lyon, pour voir un peu ce qui s'y passe et voir du coup comment ça se passe en France pour ces salariés-là. Donc voilà. Du coup on se fait du coup une deuxième petite pause, c'est ça ?
Allez, deuxième pause musicale. On va écouter Brigitte Fontaine qui va nous interpréter Cubeni. Cherchez pas, je l'ai fait exprès.
Thématique du soir.
Je l'ai fait exprès. Allez.
Du cul d'un fils de pute, ton vie mise à nu, tes roustons en rute, fatigue mes yeux, mon esprit gothique, aspiré par Dieu et l'au-delà chic. Tu as donc la gaule. Petit foutriquet, tu risques la geôle, fief et freluquet. Seul l'archiprêtre a mon cou et mon cœur, car l'Église a droit seul à mes faveurs.
Ton foutre perdu au fond du placard, 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 ton foutre perdu au fond du placard.
foutre perdu au fond du placard.
Idée Noire, 102.2, Radio Canu, l'émission de la coordination des groupes anarchistes. On va rattaquer une autre page.
Et on continue, ouais. Du coup, avec une petite brève avant de partir en Turquie. Une petite brève trouvée tout à l'heure, et on espère qu'elle fera date, celle-ci, parce que du coup, la Cour de cassation a condamné l'État sur une histoire de contrôle au faciès, et c'est la première fois, du coup, que ça arrive. Voilà, donc les opposants au contrôle d'identité abusif attendaient cette décision, espérant qu'elle fasse jurisprudence, et donc elle le fera. Et donc la plus haute juridiction civile a tranché aujourd'hui, donc ce mercredi, on est le 9 novembre, la Cour de cassation donc, a condamné l'État pour plusieurs cas de contrôle au faciès, estimant qu'il lui revenait de démontrer l'absence de discrimination quand une personne contrôlée dispose d'éléments qui peuvent laisser présumer l'existence d'un tel comportement. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, une belle victoire, en espérant du coup qu'il y aura plein de plaintes sur du contrôle au faciès. Voilà, on sort de plusieurs décennies de non-droit en matière de contrôle d'identité. Les policiers considéraient qu'ils pouvaient contrôler sans motif, et ben maintenant c'est terminé avec cette décision de la Cour de cassation qui a donc condamné l'État pour des contrôles au faciès. Donc on espère qu'il y aura du coup plein de plaintes de nouveau par rapport à ces contrôles. On sait qu'ils sont énorme, enfin, du coup, hein, c'est principalement la totalité des contrôles des flics, hein, en gros. Du coup, j'avais dit qu'on allait partir en Turquie, parce que du coup, samedi, là, juste avant notre activité à la plume, ben, on appelait, puis on s'est rendu à un rassemblement du coup, devant le consulat de Turquie, parce que la veille, plusieurs membres et cadres du parti HDP, hein, Parti démocratique des peuples, du coup, avaient été arrêtés hein, dans le délire d'Erdogan en Turquie, hein, d'arrêter un peu tout ce qui est opposé à lui. Et ben du coup... j'ai trouvé un petit texte du coup, parce que mais nous aussi on utilise souvent ce terme-là pour qualifier le HDP, on dit que c'est un parti pro-kurde, donc voilà. Et j'ai trouvé du coup un petit texte assez intéressant du coup pour aller un peu à l'encontre de ça, parce que du coup ça le confine un petit peu dans ce truc uniquement pour les Kurdes en fait, et ce qui sert aussi d'argument à Erdogan et à l'AKP pour les arrêter, pour les terroriser, pour les tuer dans les villages, notamment dans le sud-est de la Turquie. Et donc du coup voilà, c'est un petit texte que j'ai trouvé. Voilà, écrit par quelqu'un qui s'appelle Alican Tayla, et donc je vais vous le lire. Donc, vous entendez sûrement souvent parler ces jours-ci du parti HDP, dont plusieurs cadres, y compris ses deux co-dirigeants, ont été arrêtés par le régime d'Erdogan. J'imagine que la seule chose que beaucoup d'entre vous savent sur ce parti, c'est qu'il est pro-kurde. Normal, c'est le seul qualificatif utilisé pratiquement par la totalité des médias français. Alors pour ceux d'entre vous que ça intéresse, et je vous prie amicalement de vous y intéresser, voici quelques informations fondamentales sur le HDP que je trouve plus que regrettable d'ignorer. C'est un parti évidemment issu du mouvement politique kurde, mais qui ne se réduit pas à ça et qui comporte en son sein différents groupes et de nombreux membres et députés qui ne sont pas kurdes. C'est un parti de gauche, entre guillemets, et socialiste, entre guillemets, donc le vrai terme socialiste, hein, pas celui qu'on a en France. Hein. C'est le seul au Parlement en Turquie. Il est accessoirement affilié au Parti Socialiste Européen et à l'International Socialiste. C'est un parti écologiste, le seul également au Parlement en Turquie. C'est un parti féministe, paritaire et qui défend ouvertement les droits des LGBTI, le seul encore au Parlement en Turquie. C'est un parti qui défend plus d'autonomie démocratique régionale, et ce pour toutes les régions de la Turquie, pas seulement les régions majoritairement kurdes. C'est un parti qui défend les droits et les libertés de toutes les minorités de Turquie, y compris les Arméniens, le seul, oui encore, au Parlement de Turquie, et pas seulement ceux des Kurdes. C'est un parti laïque qui défend la liberté de culte et la séparation des affaires religieuses des affaires étatiques et qui prévoit la suppression du ministère des affaires religieuses. Et c'est le seul à le faire. Donc ce parti qui avait obtenu en juin 2016 près de 6 millions de votes, autour de 13% des voix, avec aussi le soutien de nombreux « turcs », entre guillemets, démocrates et ou de gauche, ayant obtenu 80 sièges à l'Assemblée, il a empêché l'AKP d'obtenir la majorité suffisante qu'il guettait pour changer la Constitution et passer au régime présidentialiste souhaité par Erdogan. Ce dernier a refusé d'admettre les résultats de ces élections, annoncé des élections anticipées. Depuis cette date, l'armée turque a littéralement assiégé plusieurs villes kurdes dans le cadre de ces « entre guillemets opérations contre le PKK » en causant la mort de centaines de civils kurdes. Le HDP a subi un nombre incessant d'attaques. Les attentats de Daesh visant les Kurdes de Turquie se sont multipliés. L'AKP a réussi à faire voter, avec la complicité des autres partis d'opposition, la suppression de l'immunité parlementaire pour les députés du HDP. Première étape de la charade dictatoriale dont l'arrestation cette semaine des cadres du HDP est la dernière étape. Donc le HDP n'est pas un parti nationaliste, séparatiste, indépendantiste, belliciste, pour lequel la seule appellation pro-kurde pourrait laisser penser. Au contraire, c'est, selon la personne qui écrit, et beaucoup d'autres Turcs, le seul parti réellement démocratique en Turquie. Donc voilà pour ce petit remise au clair qui peut être plutôt bien, même pour nous, du coup, voilà, dans la manière dont on s'exprime quand on parle du HDP. Et du coup, voilà, pour faire suite un petit peu à cet article-là, donc les membres du parti donc démocratique des peuples, le HDP, donc troisième parti du pays avec 59 députés après les dernières élections, eh ben, ne participera plus du coup ni aux séances parlementaires, ni au travail des commissions depuis qu'il y a eu ces arrestations. Les députés qui n'ont pas été arrêtés se consacreront à rencontrer leurs électeurs allant de maison en maison, de village en village et de district en district pour ensuite formuler des propositions sur la façon dont leur parti peut continuer ses activités. Voilà, donc il y a eu un vaste coup de filet donc à l'encontre du principal donc parti d'opposition. Et puis on rappelle hein, qu'il y a eu plus de 35 000 personnes arrêtées en Turquie depuis la mi-juillet. Donc voilà, ça fait quand même du monde tout ça. Hein. Et pour revenir un peu en Turquie, parce qu'on leur avait donné carte blanche hein, un petit peu en Europe pour l'accueil de migrants et de migrantes, on leur avait dit en gros, bah, on vous laisse accueillir toutes les personnes qui migrent, notamment de Syrie, et puis on ferme un peu les yeux sur ce que vous faites en Syrie, au Rojava et compagnie. Eh ben, il y a un reportage qui est sorti sur une chaîne anglaise il n'y a pas très longtemps et qui raconte un peu le calvaire des réfugiés syriens dans des ateliers Mango ou Zara, du coup en Turquie. Voilà, les migrants syriens mineurs qui travaillent dans les ateliers de grandes marques européennes en Turquie. Voilà, au bout de la route, des conditions de travail déplorables, un salaire de misère. Selon cette enquête, de nombreux réfugiés syriens, dont des mineurs, travaillent dans les ateliers textiles de sous-traitants de grandes marques occidentales en Turquie. Parmi les enseignes épinglées par le reportage, Zara, Asos, Mango ou encore Marks & Spencer. 12 heures de travail chaque jour pour 1 euro. Donc voilà, il y a des images qui étaient prises en caméra cachée. Voilà, chez Marks & Spencer, donc le journaliste affirme avoir repéré plusieurs jeunes Syriens, dont un âgé de seulement 15 ans, dans les ateliers de repassage des vêtements, une des dernières étapes avant leur livraison vers le Royaume-Uni. Voilà, idem sur un site de la marque Asos, hein, la direction a finalement admis avoir dénombré 14 réfugiés syriens, dont 3 âgés de moins de 16 ans. Voilà, on le sait aussi, hein, donc ça c'est la responsabilité aussi des autres États hein, qui refusent d'accueillir des migrants et des migrantes. Et on sait après aussi comment ces personnes sont exploitées. Enfin, on connaît déjà un peu tout leur trajet pour venir dans un autre pays, hein, qui est un vrai calvaire. Et ensuite, voilà, de la manière dont ils peuvent être exploités aussi par le capitalisme, hein, très clairement, par des patrons véreux qui n'hésitent pas, du coup, à les prendre et à les faire travailler pour rien du tout, quoi, voilà, pour le bien-être des Européens. Donc voilà. Et donc voilà pour cette petite page Turquie assez rapide, mais du coup on va enchaîner avec la deuxième page de lutte comme ça. Voilà, on
sera allons-y, il y en a, hein, il y en a des luttes. Hein. Eh bien, comme Amel par exemple, Amel c'est dans les Deux-Sèvres avec un lycée agricole, avec une grève des enseignants et enseignantes en ces débuts de novembre. 40 personnes, leur combat c'est la dotation globale horaire. Le compte d'heures donc n'y est pas. Manque évident pour un enseignement de qualité en établissement public. Le service régional de formation et développement a laissé sur le carreau les redoublants carrément. Ils et elles donc ont pu intégrer l'établissement sans les heures qui devaient leur être attribuées. Alors merci le ministère de l'Agriculture dont dépend le lycée Jacques Bugeaud. Et c'était soutenu par le syndicat SNETAP FSU, et ça c'était donc au début novembre, le 3 novembre. À la Courneuve, maintenant près de Paris, pas de pitié, hein, c'est la devise des patrons, voire de ceux qui leur ressemblent ou les imitent. Dans le magasin Eau Frais du groupe U, une caissière a payé cash licenciement sous prétexte d'erreur de caisse. En juin, cette employée, enceinte de 4 mois, avec une grossesse difficile, a perdu son bébé suite à un effort dans des conditions non admises dans son cas. Travail debout et toujours plus de rendement. Pression des chefs, pression des caméras, pression des vigiles. Et donc, voilà ce qui est arrivé. Une mobilisation des collègues, une pétition avec 5000 signatures récoltées, et puis un rassemblement fin octobre, et finalement, une procédure devant les prud'hommes. À l'Aume, c'est dans le Nord, avec c'était le 4 novembre, le Centre des finances publiques, grève des employés, des suppressions de postes. Alors là, également, pas question de supprimer des postes. C'était le 10 octobre que la mobilisation a démarré dans le Nord, dans plusieurs bureaux. Il est dénoncé 36 000 suppressions en une quinzaine d'années, une fermeture de trésorerie, 631 en 7 ans. Il dénonce également les conditions de travail, évidemment, suite à cela, et le service public de moins en moins à la hauteur, évidemment. À Limoges, avec une manifestation des étudiants et étudiantes orthophonistes du service public, c'est la seconde manif en quelques semaines, avec les revendications, revalorisation des salaires à l'embauche, remplacement des départs en retraite dans les hôpitaux. Tout ça fait partie des plans pour l'économie qui touchent aussi bien la santé que l'enseignement, que tout, finalement, au bout du compte, en particulier les services publics qui seront bien inexistants dans quelques années. Bah, Saint-Martin-d'Hères, j'avais prévu aussi un truc, c'est de l'EFN, tu l'as dit, hein, qui s'est écrasé carrément à 100 à l'heure contre la détermination d'une centaine de personnes en soutien à l'accueil des réfugiés sur la commune, qui seront logés convenablement. Apparemment, l'EFN avait appelé à manifester devant la mairie. La place était finalement prise par les manifestants, la contre-manifestation. L'extrême droite, donc institutionnalisée, a dû faire marche arrière et rentrer à la niche. Couché, Philippot. À Jarny, bon, c'est une société à qui le syndicalisme provoque une éruption de boutons. Alors ça chatouille là où ça chatouille. C'est l'enseigne, je vais les nommer, hein, l'enseigne Leclerc qui n'aime pas du tout la CGT ici. Le 5 novembre, celle-ci, donc la CGT, a appelé à une manifestation à proximité du magasin en protestation. La CGT existe depuis 1998 à Jarny, chez Leclerc. Alors, répression, une salariée a été placardisée, donc mise au placard, façon de parler, puisqu'elle est surveillée, filmée, et son salaire confisqué. Appel au prud'homme, la direction s'en tape comme de sa première chemise. Je dirais là aussi hallucinant, depuis des années, on connaît ça, une campagne anti-tabac, hein. On connaît ça, eh bien, faire cesser la consommation, c'est caca. Eh bien, La Poste, parce que c'est elle qu'il est question, à Épinal, a fermé un bureau dans un quartier et l'a remplacé par un point relais. Oui, où ça ? Dans un bureau de tabac. Le point relais dans un bureau de tabac, voilà, youpi pour la campagne anti-tabac. Et puis, ce mouvement de colère aussi, qui continue, on en a eu un hier à la rue Garibaldi, hein, un mouvement de colère dans la santé. Et là, je vais citer un exemple, c'est en Normandie, avec le conseil régional, avec la droite qui est majoritaire et qui exerce son extrême. Alors, il y a une fermeture d'une école d'infirmières, déjà, il y en avait 17 sur la région. Et elle ferme également 8 écoles d'aide-soignants et soignantes. Il y en a 30 sur la région. Et l'ARS du secteur exige la fermeture de 122 places offertes au concours. Alors, prétexte, qu'il y a 850 infirmiers et infirmières à Pôle emploi. Donc, droite, gauche, on ferme, on supprime des lits d'un côté, et puis le ministère de la Santé de Marisol Touraine, l'ARS, très créatif, tous les deux dans la création de sans-emploi. D'un autre, les salariés, travailleurs et travailleuses de l'hôpital public qui sont en mal d'effectifs et des conditions de travail de fait qui sont déplorables. Voilà un peu la situation.
Donc voilà, ouais, je dirais du coup de la manif d'hier. Apparemment, c'était plutôt,
je suis en colère.
C'était plutôt une belle manif du coup hier, hein, appelée dans le secteur de la santé, dans le social médico-social, pardon. Mm-hmm. Du coup, avec un rendez-vous devant l'ARS après qui est parti en manif direction la préf, il me semble. Du coup, il y a eu quand même une belle manif qui a bien donné la patate au personnel qui s'est mis en grève. Du coup, on espère que la semaine prochaine, on aura peut-être quelqu'un du coup qui pourra nous faire un petit peu un point sur ce qui se passe dans les hôpitaux et notamment au Vinatier, donc faire un petit retour sur le pourquoi de cette grève d'hier, ouais. de faire un petit point sur les revendications, sur ce qui a bougé, ce qui sans doute ne bougera pas pour le moment, et de faire un petit point bien précis sur ce qui se passe du coup au Vinatier. Donc il y a peut-être un camarade du coup qui pourra passer la semaine prochaine. Voilà, pour vous rappeler du coup, parce qu'on a, voilà, on a fini le programme, et on va essayer de gratter sur les 3-4 minutes qui nous restent, pour vous rappeler du coup la projection de vendredi soir à la Plume Noire, donc à l'occasion du 11 novembre, une projection antimilitariste avec la projection du documentaire qui s'appelle 14-18, le bruit et la fureur. Et puis juste avant, on aura une petite discussion du coup sur les projets un peu des politiciens sur la réhabilitation du service militaire et sur le fait de mettre au travail les petits jeunes de 18 à 25 ans pour pas grand-chose. Donc on en parlera, ça s'appelle le service civique obligatoire.
Le fameux SCO.
Voilà, on ouvrira du coup la librairie à 19h30, le prix libre comme d'habitude pour l'activité et début de la soirée pour 20h. Donc voilà, on va aussi sûrement parler dans les émissions prochaines, car le 20 novembre c'est la journée du TIDOR. Donc la journée du souvenir trans, du coup, de toutes les personnes transsexuelles assassinées dans l'année. Voilà, on va essayer aussi de motiver une camarade, pourquoi pas, de venir nous faire un peu l'historique de cette journée, de pourquoi cette journée, et puis comment ça va se passer peut-être à Lyon pour celle-ci. Voilà, pour aussi vous dire que le 25 novembre aussi, ça va bouger sur Lyon à l'occasion de la journée contre les violences masculines. Voilà, il y aura sûrement quelque chose qui se prépare. On vous en parlera sûrement plus aussi la semaine prochaine, en espérant voici aussi qu'une copine puisse le faire. Donc voilà, et puis on va vous rappeler aussi, du coup, comme d'habitude, si vous voulez soit donner un coup de main pour les cours de langue qu'on donne à la Plume Noire, donc qui se déroule au 8 rue Diderot tous les lundis de 18 à 20h, de nous envoyer un petit mail sur l'adresse que vous trouvez sur le site, autrement c'est groupe-lyon@c-g-a.org. Voilà, en précisant si c'est vous qui voulez donner un coup de main ou si c'est quelqu'un qui veut du coup avoir accès aux cours. Voilà, pour qu'on puisse vous répondre et vous dire comment ça se passe. Voilà, n'hésitez pas du coup à nous contacter par rapport à ça. Les permanences, toujours comme d'habitude, les mercredis 17-19 et les samedis 15h-19h. Et puis peut-être rappeler juste encore une dernière activité.
Oui, rappeler ce que j'ai dit tout à l'heure à propos de la commémoration de la résistance au franquisme de 1936, là, si on veut aller se rappeler un petit peu de l'histoire qui est longue. Et
en ce moment, ça peut faire du bien.
Oui, non, mais tout à fait, non, mais c'est une bonne initiative, voilà, donc c'est organisé par un collectif, je vais dire, c'est papiart@yahoo.fr si vous voulez avoir plus de détails sur cette journée du 12 novembre, samedi, de 10h à minuit, à la salle des fêtes Les Ovalistes, 6 impasse Flessel à Lyon, dans le premier arrondissement. On y accède avec le bus 13, le 18 et le 6 à l'arrêt Rouville. Il y a un programme, je dirais, quand même alléchant, avec une exposition d'affiches de la CNT FAI de 1936. C'est quelque chose. Il y a un débat aussi autour du film Ortiz, un général sans dieu, sans maître. Il y a de la sérigraphie aussi sur T-shirt, une bonne activité, on va dire artistique, organisée par l'atelier Chalopin Papillart. 19h, buffet par une coopérative locale. Et puis à 21h, la partie musicale avec une intervention musicale d'une chorale et d'un DJ. L'entrée, c'est une participation aux frais qui est de 1,80€, soit le prix d'un ticket TCL. Et une réservation obligatoire. Donc vous pouvez aller sur le site papiart@yahoo.fr. Et puis donc voilà, presque tout dit.
Voilà, on avait eu peur de vous laisser avec les bandes continues, même si les bandes continues c'est bien, mais du coup la lumière du frigo vient d'arriver. On va lancer nous le générique qui va lui laisser le temps de s'installer un petit peu. Et puis autrement, on balancera un petit peu les bandes continues s'il faut, tant que ça finisse tout ça.
Sinon, on a tout dit.
Donc, ouais, on a tout dit là.
Allez, on vous dit à mercredi prochain en tout cas.
Ciao.